France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. L'amour selon Colette. Chapitre 2. Explorer les interdits. Avec l'immense succès des Claudine, le couple Gauthier-Villars change de statut. L'afflux des droits d'auteur leur permet de déménager de la rue Jacob du côté d'Odéon vers d'autres quartiers plus à la mode. Et en 1896, les voilà qui s'installent rive droite à la plaine Monceau. En fait d'appartement, ils s'installent plutôt dans une sorte de loft, un atelier d'artistes qui laisse passer la chaleur en été et le froid en hiver. En tous les cas, beaucoup trop de clarté toute l'année, comme le dira l'écrivaine. Beaucoup de monde y passe, des célébrités dans tous les domaines artistiques, mais aussi un grand nombre de personnes improbables, gens du quartier, riches comme pauvres. Une vie de bohème donc, dans laquelle Colette ne se trouve pas forcément aussi mal qu'elle a bien voulu le raconter ensuite dans son livre « Mes apprentissages ». Et puis le couple achète également une maison de campagne pour Colette qui la réclame. Comme dans son loft parisien, elle y a installé de quoi faire de la gymnastique. Elle écrit « Willy est un très bon maître d'écureuil, la cage est charmante et la porte ouverte. Il m'a donné de très jolis jouets d'écureuil, un trapèze, des barres parallèles, des anneaux et des échelles. » En tant que couple, Colette et Willy fascinent. Quand ils se rendent tous les deux au bois de Boulogne, ils sont suivis par des photographes, car il faut bien se rendre compte que ce sont des stars, on pourrait presque dire des people. À travers leurs livres, ils laissent leur lectorat fantasmer sur leur vie quotidienne qui semble à tous extravagante. Ils entretiennent d'ailleurs le flou sur la part autobiographique que comportent les Claudine. Claudine Emménage, justement, pousse un peu plus loin encore l'atmosphère de scandale qui entoure leur vie privée. Il y est question d'une femme ressemblant beaucoup à Colette qui trompe l'ennui de son mariage avec une autre femme ressemblante à leur amie Georgie Raoul Duval, cette écrivaine franco-américaine qui a entamé une liaison avec Willy, mais aussi avec Colette. Selon Willy, c'est même sa femme qui lui aurait fait une cour ardente, tenace et brutale pour arriver à ses fins. Et justement, Claudine Emménage ne décrit pas autre chose qu'un couple à trois entre Claudine, son mari libertin plus âgé et la séduisante Résie, de quoi faire jaser. Dans la salle des archives, on trouve plusieurs enregistrements où se font jour des interrogations sur le mode de vie amoureux de Colette et Willy. En 1978, par exemple, l'écrivaine Régine Deforge et le romancier Hubert Juin revenaient sur ce thème.
Je crois qu'elle aimait les femmes parce que elle a eu peur de Willy, elle le dit à un certain moment. Willy lui a révélé non seulement qu'elle était un écrivain, mais elle lui a révélé le plaisir. Et je crois que quand elle a rencontré le plaisir dans les bras de Willy, ça a été pour elle un choc immense sur lequel elle va vivre pendant un certain nombre d'années, ce qui va lui permettre d'accepter tout ce qu'elle va accepter de Willy, y compris des femmes, y compris des ménages à trois. On l'a vu, elle l'a écrit, dans mes apprentissages, elle va avoir des accents de révolte, de colère envers Willy, puis tout d'un coup, elle avouera que c'est l'homme qu'elle a aimé, que c'est l'homme qu'elle aime, finalement.
Tout un jeu de Willy, j'ouvre cette parenthèse, parce que ce que vous dites, Régine, est très important, étant donné qu'on verra à un moment donné Willy avec les fameuses deux sœurs, entre guillemets, c'est-à-dire Polaire et Colette, n'est-ce pas, puisque Claudine est portée à la scène et c'est Polaire qui joue le rôle de Claudine, et Willy trouve là un excellent argument publicitaire. Et il leur fait faire des robes à peu près semblables et ils sortent à trois.
Voilà, elles se tiennent par la taille, elles se font de petits baisers. Enfin, tout ça excite beaucoup les gens de l'époque et je crois Willy lui-même. Et je pense que Colette s'est prêtée à tout ça pour faire plaisir à son mari. Comme vous le disiez, maintenant ça se produit comme ça. Le nombre de jeunes femmes qui se prêtent aux caprices de leur mari, qui vont dans des maisons de rendez-vous un peu particulières, ça c'est très courant et banal, somme toute.
Emmanuelle Lambert, vous êtes écrivaine et vous avez notamment publié chez Gallimard un livre racontant en texte et en images la vie de Colette. Votre première réaction à cette archive?
Je trouve très intéressant la manière dont Régine Desforges articule la notion de plaisir à celle de découverte. C'est-à-dire qu'elle a le mérite d'avoir lu Colette et d'avoir lu mes apprentissages et notamment toutes les horreurs que Colette écrit sur Willy à ce moment-là. Mais elle poursuit cette cette idée que j'aurais tendance à penser plus un conte ou une fable qu'une idée, qui est très commune, qui est que la femme découvre le plaisir par l'homme. Et tout en tenant un discours plutôt féministe, plutôt d'émancipation, de voilà Colette qui s'ouvre à sa liberté de femme, elle maintient malgré tout cette idée-là.
Comment, selon vous, Colette aimait-elle les femmes? Parce que, de toute évidence, il y a ce moment Missy dans sa vie, mais pour le reste, c'est essentiellement des hommes. Alors, il y a eu aussi Polaire, là, on vient de le comprendre, pendant la période Willy.
Alors, moi, quand j'ai commencé à me pencher un peu plus sur l'œuvre de Colette, j'avais cette idée, qui est d'ailleurs valable, je crois, d'une grande amoureuse, de quelqu'un qui avait vraiment laissé, laissé son cœur dicter sa conduite, mais c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'il a toujours vécu dans cette tension entre son cerveau et son cœur, et qui a toujours laissé son corps aussi s'exprimer.
Donc, c'est ça mon fait corps qui pense, dit
voilà,
Colette.
Voilà, c'est toute ma peau a une âme. Donc c'est les trois instances, le cœur, le corps et le cerveau. Et j'ai découvert peu à peu que cet amour de Colette pour les femmes, qui est un amour sexuel, et il faut le dire, il ne faut pas l'euphémiser longtemps dans les commentaires. Il y avait une sorte justement d'euphémisme qui était aussi très lié à ce qu'elle écrivait, elle. Elle a trouvé refuge dans les bras des femmes, elle était déçue par Willy qui l'avait maltraitée. Bon, elle l'a écrit, Colette, mais il faut voir l'époque à laquelle elle écrit aussi. Hein, on n'est pas... Mais il semblerait qu'elle ait vraiment éprouvé du plaisir auprès des femmes.
Mais pas seulement, elle pouvait aussi être amoureuse des
femmes.
Bien
sûr, l'un n'empêchant pas l'autre, évidemment. Mais je crois que son lien aux femmes est très vaste. C'est-à-dire que la chose que je n'avais pas encore tout à fait comprise avant de la lire vraiment, c'est l'importance de l'amitié féminine chez elle, qui est une forme d'amour très puissante et très constante. Colette a, je crois, une relation au plaisir et à l'amour. Je cite Nathalie Clifford Barnet, hein, son amie, qui lui disait « Tu es une monogame sérielle ». C'était quelqu'un qui était dans un rapport de jalousie très profond, qui n'a pas supporté les infidélités de Willy, qui n'a pas supporté les infidélités de son deuxième mari, Jouvenel. Donc elle voulait vraiment être l'unique, elle le dit, elle l'écrit, elle le pense. Elle a ce rapport absolu, hein, à la relation amoureuse. Et elle passe comme ça de relation très forte en relation très forte, de relation monogame en relation monogame, mais elle les accumule. Elle passe par tous les états, si vous voulez, du sentiment amoureux, mais il y a une constante, il y a une sorte de base continue à tout ça dans toute sa vie. Ce sont ses amitiés avec les femmes.
Est-ce qu'il ne faut pas préciser que, quand même, en ce début de XXe siècle, il y a un moment qui est un moment saphique où on a l'impression qu'à Paris, dans certains milieux, c'est davantage autorisé qu'une femme aime une autre femme.
Oui, tout à fait. C'est même, c'est complètement ouvert. Alors, c'est quand même un milieu étroit, hein. On parle quand même des milieux parisiens, artistes. C'était un petit nombre de personnes, de gens qui n'avaient pas besoin de travailler. J'insiste aussi sur le fait que c'était des beautés physiquement et que donc ça pouvait aussi émoustiller le bon père de famille hétérosexuel de l'époque. Il disait, ah, quand même, elles sont drôlement jolies, ces petites. Et quand on arrivait avec des femmes lesbiennes, comme l'était Mathilde Morny, là, c'était une autre histoire.
Willy est un libertin, c'est entendu. D'ailleurs, la police des mœurs le surveille. Et voilà ce que l'on peut trouver dans un rapport de leur salle des archives à eux. On apprend que le romancier Gauthier Villard, Henri, dit Willy, auteur de Claudine à Paris, demeurant 93 rue de Courcelles depuis 5 ans, a retenu pour l'après-midi du 29 avril écoulé un petit appartement, 6 au 4e étage d'une maison discrète de la rue Pasquier, dans le but d'y rencontrer deux lesbiennes, sa femme légitime et une femme âgée d'environ 30 ans. La réunion du romancier et des deux femmes en cause a eu lieu de 3 à 6 heures du soir. Arrivées les premières, les deux femmes sont restées seules pendant une heure. Cette femme d'environ 30 ans, c'est évidemment Georgie Raoul Duval. Interrogé en 1978, l'écrivain et journaliste Michel Georges Michel se souvient du jeu saphique que jouait Willy avec sa femme, un jeu qui s'est retourné contre lui.
J'ai assisté à la terrible soirée où Willy avait habillé Colette
et Polaire,
en petites écolières, et s'était exhibé au Moulin Rouge. Ça a été un scandale épouvantable. Pourtant, le public du Moulin Rouge ne passait pas pour très bégueule.
Il était habitué à beaucoup de choses.
Eh bien, ça a fait un tel scandale que Willy y a perdu sa situation de critique musicale, car c'était un critique musical très subtil, et a perdu sa situation de critique musicale de l'Écho de Paris. Et Colette l'a quitté, et il l'a quitté pas pour un monsieur, mais il faut bien dire la vérité, pour une dame de très grande noblesse. Et j'ai vu Willy, qu'on accuse à tort d'être un vilain monsieur, qui était peut-être amoral, mais pas du tout immoral. Je l'ai vu pleurer du départ de Colette, et il m'a dit si ça avait été un homme qui l'eût enlevé, je lui ai envoyé 6 balles de revolver dans le ventre.
Qu'est-ce que vous entendez dans cette archive, Emmanuel Lambert ?
J'entends la tristesse de Willy du départ de Colette. Je crois qu'elle est avérée, hein, que depuis, les biographes ont exhumé les correspondances et que Willy, qui avait de l'humour, d'ailleurs, du jour où Colette l'a quitté, il signait ses lettres « Feu Willy ». Voilà. Donc ça, je trouve ça très drôle.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression, Emmanuel Lambert, que Willy a poussé Colette aussi dans les bras des femmes parce que ça l'amusait, parce que ça l'excitait, et pour des questions de publicité, comme vous l'avez dit ?
Quand j'ai commencé à écrire sur Colette, j'étais voilà, vent debout, j'ai Willy, ce salaud qui a exploité sa femme, etc. Et évidemment, quand on creuse, c'est toujours un peu plus compliqué. Il y a chez Willy une sorte de, me semble-t-il, de compétence à jouir de tout. Voilà. Et à exploiter toutes les situations et à...
Que Colette pouvait avoir aussi.
Que Colette, je pense, a pour le coup apprise de lui. Et qui, chez l'un d'ailleurs, comme chez l'autre, chez les deux, chez elle et chez lui, s'ancre aussi dans une mélancolie assez profonde. Quand Colette connaît Willy, il est le père hein, d'un enfant né en mariage, la mère est morte, la mère de l'enfant est morte, ça l'a plongé vraiment dans une vraie détresse affective. Donc c'est quelqu'un de très anglais de ce point de vue, Willy, très voilà, dans le sous-entendu, dans le bon mot, dans le, voilà. Il y a une sorte d'élégance comme ça. A quand même doublé d'un sens des affaires tout à fait remarquable. Donc, est-ce que ça l'excitait vraiment sexuellement ? Est-ce que, à vrai dire, peu m'importe, ce qui est sûr, c'est que ça l'intéressait littérairement et commercialement. Et Willy est vraiment un des premiers éditeurs au sens moderne à avoir compris la part fondamentale de l'image publique et de la publicité des livres et des écrivains. Donc, il a joué sur tous les tableaux, mais à la fin, quand même, il a perdu.
Entre le masculin et le féminin, avec Colette, le genre se brouille, même si le terme de genre ne s'emploie pas à l'époque avec la même signification qu'aujourd'hui. Mais quand, en 1950, le journaliste André Parineau cherchera à réassigner les genres à leur place supposée dans une interview de Colette, eh bien l'écrivaine va résister.
Je voudrais faire la part du feu. J'aimerais par exemple que vous me précisiez si certains passages de Claudine, qui sont empreints d'une sentimentalité très sensuelle, sont dus à Willy. Je vous en cite par exemple de mémoire. Lorsque Claudine parle à Aimé et qu'elle lui dit « Ah, comme vous êtes mince, on vous casserait, vos yeux sont bien jolis à la lumière », ou bien encore « Je serre ma chaise contre son épaule ». Elle passe son bras autour de moi, je presse sa taille qui plie. On a vraiment l'impression que c'est un garçon qui parle. Est-ce que tout cela est de vous ?
Mais oui, bien entendu. Et pourquoi est-ce que une fille, même si jeune, serait complètement dépourvue des sentiments d'un garçon du même âge ? Il n'y a pas de raison pour ça.
En ce qui concerne tous les passages de sentimentalité sensuelle, on ne peut pas dire que M. Willy a réajouté quelque chose.
Non. Il n'y a rien à ajouter à cela. Il a suggéré d'autres choses qu'il souhaitait un peu plus vives, mais je crois bien, ma foi et à mon grand étonnement, à moi déjà à ce moment-là, je m'y suis refusé.
Est-ce que le scandale des deux écolières dont il était question dans les archives précédentes, et y compris dans celle-là. Est-ce que pour vous, c'est ça qui entraîne la rupture avec Willy ? Ou est-ce que ça fait partie des choses qui vont la pousser dans les bras de Missy ? Au fond, pourquoi passe-t-elle d'un amour à un autre ?
Il me semble qu'elle passe d'un amour à un autre tout simplement parce qu'il n'y a plus d'amour. Où il y en a moins, où il n'y en a pas assez, où il n'y en a pas comme elle veut. Elle a connu, pour le coup, une initiation, et ça, j'en suis sûre avec Willy, c'est l'initiation à la déception amoureuse. Puisqu'elle s'est mariée, donc elle était jeune, elle venait de sa province, et elle avait un modèle d'amour tout à fait extraordinaire, qui était l'amour de ses deux parents, qui sont des êtres qui sont aimés toute leur vie, qui étaient des gens très originaux. Elle est arrivée à Paris et elle a découvert qu'elle était mariée avec un vieux garçon qui avait des maîtresses, qui avait une garçonnière, et elle a vraiment failli en mourir. Elle a déclaré une maladie, elle a été veillée jour et nuit par sa mère. Il me semble qu'à partir de là, quand même, le cuir s'est épaissi. La séparation, elle s'est faite en plusieurs fois. On s'y perd un peu, d'ailleurs. Il y a des séparations de corps, de biens. Mais je dirais que ça s'est émoussé parce que, tout simplement, c'est le sentiment que j'ai. Hein. Elle a grandi et que elle a souhaité autre chose et que Willy, lui, restait dans la répétition infinie du schéma du Pygmalion infidèle, assez sympathique et menant grand train. Mais il y a un moment où, quand on a une personnalité comme ça, vif argent dans les mains, elle s'échappe et je crois que c'est ce qui s'est, en fait, finalement assez banalement produit.
Alors il faut raconter un petit peu qui était Missy et peut-être comment toutes les deux se rencontrent. D'abord dire que c'était la fille du duc de Morny, donc le demi-frère de Napoléon III, autant dire de la très très grande aristocratie française de l'époque.
Oui, de la très très grande aristocratie, donc Mathilde de Morny, hein, de son vrai nom, qui était une enfant mal aimée, paraît-il. En tout cas, dit-elle, pour sa laideur, ce qui est quand même fort de café, me semble-t-il, qui a affiché très tôt une préférence pour les femmes.
Qu'elle se soit d'abord mariée.
Qu'on a marié avec un aristocrate compréhensif sur les préférences de sa jeune épouse, mais enfin, elle a fini par divorcer. Et étant divorcée, elle avait non seulement la joie d'être une femme libre, mais surtout d'être une femme libre avec de l'argent. Donc, elle avait un certain nombre d'atouts dans les mains. Je n'aime pas porter des espèces de diagnostics a posteriori, donc je ne sais pas si on peut dire que c'était un transsexuel ou un intersexe. C'est des mots que je peine à employer la concernant. En tout cas, c'était quelqu'un qui se vivait comme un homme, qui donc s'habillait comme un homme. Il y a des photos de la fin de la vie de Missy qui sont tout à fait confondantes, où vraiment vous voyez un vieux monsieur. Hein. Elle avait coupé les cheveux très courts, elle avait bandé les seins, elle avait vraiment effacé tous les signes de féminité possibles. C'était même pas un brouillage des genres, elle avait changé de genre. Et elle se rencontre avec Colette, elle se rencontre dans un... au lancement d'une revue, dans un tripot où la bonne société vient jouer. Et l'histoire d'une part et les archives d'autre part disent qu'effectivement, Willy a favorisé l'idylle, aussi parce que Willy était très pragmatique et qu'il voyait là quelqu'un qui avait de l'argent et qui pouvait aider Colette, dont il était séparé depuis peu. Et Missy lui écrit à Willy, hein, vous m'avez vu mis Colette dans les bras. Toujours est-il que, quand bien même cette rencontre était un peu arrangée, elle a quand même donné lieu à une vraie histoire d'amour qui a duré 5 ans.
De nombreuses lettres montrent d'ailleurs l'amour entre Missy et Colette. En voici tout de suite deux exemples dans une interprétation de Valérie Lemercier.
Bordeaux, septembre 1908, hôtel du Chapon Fin. Ma chérie, je t'écris vite avant de me coucher. Malgré un orchestre déplorable, nous avons eu du succès. Les applaudissements ont sonné de rue, tu sais, le bon applaudissement sec et dur, pas celui qui fait un cloc-cloc mou. Je me couche, chérie, je suis vannée, je t'aime, je te regrette, tu me manques plus que tout. Mon Dieu, comme tu m'as désappris à vivre seule, moi qui autrefois avais une sorte de goût mélancolique et vif pour la solitude. Je piétine pour faire avancer le temps. Je t'embrasse, mon cœur chéri, c'est toi ma vraie raison de vivre. Ta Colette. Marseille, juin 1909, Grand Hôtel Noailles et Métropole. Ma chérie, je n'ai pas encore reçu de lettre de toi, il est plus de 2 heures. Je ne suis pas inquiète, mais je trouve que la poste va bien lentement. Oh, Missy, les cerises à Marseille en ce moment. Je n'en ai mangé de pareilles que chez moi autrefois. Elles sont énormes, tendres, gonflées. On les cueille sans soin avec des branches et elles ne font qu'un saut de l'arbre à la table. Tu les trouverais délicieuses. Et quelle abondance de fleurs ici. On marche dessus. Si tu voyais les gerbes d'œillets que j'ai dans ma chambre. Pourvu que tu voyages sans ennui, mon amour. Plus que 2 jours sans toi. Je t'embrasse de tout mon cœur. Ton enfant très sage, Colette.
Mmh. Missy assume d'être qui elle est. Elle fait de la mécanique, élève des chiens de chasse et achète des chaussures trois tailles trop grandes qu'elle bourre de papier journal. Ses domestiques l'appellent Monsieur le Marquis et ses neveux Oncle Max. Mais elle est aussi une personne fragile. Mal aimée dans son enfance, elle apprécie beaucoup trop la morphine, s'endort au chloroforme ou à l'éther et connaît de graves moments de dépression. Alors quelle est vraiment la dynamique entre elle et Colette ? Cette question fait l'objet de bien des conjectures dans les archives, où l'on retrouve les écrivains Michel Sard, Hubert Juin et Régine Desforges, qui en parlaient justement.
Dans ses amours féminines, je pense que Michel Sard sera de mon avis, elle a une attitude de mec, nous dirions maintenant. La manière dont elle parle de René Vivien est une manière brutale. D'abord, elle n'éprouve aucune sympathie pour René Vivien. Elle la regarde avec une espèce de méfiance. Et son comportement est celui d'une conquérante. Vous voyez, j'ai l'impression qu'elle inverse là le.
Je pense que ça dépend. Parce que dans ses relations avec Missy, il apparaît que c'était plutôt Missy le mec, comme vous dites.
Effectivement, elle est quand même dans une situation telle que c'est Missy qui règle tout. D'ailleurs, c'est évident que lorsque Colette est amenée à jouer les pantomimes écrites par Missy, ou bien lorsque Missy, qui est quand même la fille du duc de Morny, monte sur scène avec Colette, c'est quand même Missy qui dirige, si l'on peut dire.
Oui, mais là, on
c'est elle la maîtresse du couple.
Oui, qu'elle aurait là un rôle de protecteur, c'est-à-dire le rôle que Willy ne joue plus.
Oui, exactement. Moi, c'est ce que j'ai voulu montrer, d'ailleurs, c'est que Missy a joué une espèce de rôle de passeur. Elle a aidé, en quelque sorte, Colette à quitter Willy. Parce que je pense, comme vous, qu'effectivement, Colette a été très éprise de Willy, qu'il lui a révélé quelque chose. Mais en même temps, c'est vrai ce que vous dites, qu'elle s'est prêtée à un certain nombre de choses pour Willy. Mais c'est vrai aussi qu'elle en a conçu après une espèce de mépris pour elle-même qui était extrêmement vif et qu'elle a rejeté après ce qu'elle appelait le libertinage. Enfin, on a fait de Colette une libertine. Je crois qu'elle a été une libertine sous l'influence de Willy, mais qu'elle a cessé de l'être par ailleurs.
J'aime beaucoup la position de Michel Sard. Alors, elle avait écrit ce livre, Colette libre et entravée, qui, je crois, était un des premiers à relire Colette aussi. Après la grande période de lutte féministe, après l'émergence des gender studies aux États-Unis, parce que Colette, c'est quelqu'un qui dure depuis longtemps, quoi. Il y a beaucoup de générations qui se penchent sur elle. Elle tient, exact. Et qui la voit d'une manière différente. Et donc, cette manière de parler aujourd'hui, de dire, bah, c'est qui fait le mec dans le couple, dans un couple homosexuel, si vous voulez, nous, les bras nous en tombent. Enfin, on voit plus du tout les choses comme ça. Michel Sard, elle nuance. Et elle dit, voilà, c'est plus compliqué. Et à cette époque-là, on ne parle pas encore de rapport de domination, mais il y a quelque chose de très net dans le couple Missy-Colette, qui est que c'est Missy qui a l'argent, donc qui a socialement l'ascendant, mais c'est Colette qui rend cette personne folle amoureuse d'elle, si vous voulez. Et ça, ce jeu de pouvoir-là...
Qui domine, on ne sait pas. Et on a quand même l'impression qu'à la fin, c'est Colette qui domine, parce que c'est Colette qui part.
C'est Colette qui part, et c'est toujours tentant de relire les histoires entre les êtres à la lumière de la fin. Non seulement de la fin de l'histoire, mais de la fin des êtres. Et quand on regarde la fin de Missy, qui est quand même tragique, qui est quelqu'un qui meurt seul, qui fait une première tentative de suicide ratée, qui finit par réussir la seconde fois, qui a tenté de se faire harakiri, enfin, tout ça est d'une violence et d'une détresse absolue. Colette, elle poursuit sa route.
Est-ce que vous diriez, à la lumière de ce qu'on a aujourd'hui comme réflexion autour de la question du genre, que Colette, elle avait déjà finalement un petit peu dépassé l'idée du genre et que ça n'aurait pas été quelqu'un qui aurait dit Missy, c'est l'homme et moi, je suis la femme ou inversement.
Oui, je crois pas. C'est pas. Il y a très peu de textes de Colette sur Missy. Hein. C'est très intéressant d'ailleurs parce que c'est quand même... Colette n'a jamais peur d'écrire. Elle procède avec ruse, elle écrit ce qui peut être encore toléré, elle va jusqu'au maximum de ce qui peut se faire pour pas être reléguée dans la littérature qu'on passe sous le manteau, mais elle a pas peur. Concernant Missy, il y a une sorte de pudeur. Il y a les textes qui sont dans Les Vrilles de la Vigne où on devine qu'il s'agit de Missy, mais ça reste quand même très allusif. Et elle emploie le mot de volupté. Il y a quelque chose de l'ordre de l'épanouissement sécurisé dans sa relation avec Missy. Est-ce qu'elle trouve là la certitude d'un amour absolu, fidèle, quoi qu'il arrive ? Donc, on va quand même lâcher le mot, pas loin de l'amour maternel. C'est une possibilité. Elle est en tout cas très attentive, non pas, je dirais, au genre tel qu'on le définit aujourd'hui, mais au corps. La manière dont les corps existent et dont ils peuvent être ce qu'elle appelle ambigu, c'est ce qu'elle emploie dans dans le pur et l'impur, hein, la séduction de l'ambiguïté, ça lui plaît, que ça soit d'ailleurs chez les hommes ou chez les femmes, même si elle est séduite, elle, étant bisexuelle, par les deux.
Alors que Colette entretient une liaison avec Missy, Willy, de son côté, fait sa vie avec Meg, une actrice, chanteuse et écrivaine aux multiples talents. Mais les Gauthier-Villars continuent à se voir et à correspondre presque quotidiennement. C'est donc une sorte de quatuor qui se met en place, tout du moins aux yeux de la presse de l'époque, laquelle s'interroge sur leur relation très moderne et très tapageuse. Au fond, Colette et Willy s'aimaient peut-être davantage qu'ils n'ont bien voulu le dire. Qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuel Lambert ?
C'est l'impression que donne la correspondance post-rupture, où en fait ils se manquent l'un à l'autre.
C'est assez beau ça quand même.
C'est assez beau, alors il faut quand même nuancer, c'est-à-dire que cette correspondance, elle est quand même antérieure à Mes apprentissages, qui est vraiment le livre qui taille un costard pour l'éternité à Winnie, où là Colette est une femme mûre, elle a du recul, elle dresse quand même un portrait assez dur, hein, de Willy. Mais post-rupture, il y a cette chose que je trouve assez formidable et étonnante, c'est cette lettre de Colette où, en gros, elle dit à Willy, reprends-moi, Missy comprendra, mais j'ai une condition, je veux être l'unique. Voilà, je crois que tout est là-dedans et il me semble que Colette a couru toute sa vie derrière cet amour-là, cet amour qui donne tout, qui ne demande rien, qui est toujours présent. Et peut-être qu'elle a trouvé quelque chose de cet ordre dans son dernier mariage avec Maurice Goodkett, c'est possible.
Mais si elle écrit Mes apprentissages, ce livre si dur vis-à-vis de Willy, c'est peut-être parce que Willy a vendu les droits des Claudine et que ça, elle n'a pas pu lui pardonner. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ?
Oui, elle lui a jamais pardonné. Bah, c'est-à-dire que Willy, donc, il avait mis au point un système assez pratique pour lui, d'atelier où il faisait écrire des tas de gens avec beaucoup de talent. Il commercialisait les livres, il les signait de son nom. Donc les Claudine étaient signées Willy. Et Colette découvre un jour que voilà, tout a été vendu, qu'elle n'a rien. Et donc elle en conçoit, c'est normal, une colère énorme. Et je trouve ça très intéressant parce qu'au fond, la vraie rupture, elle intervient là. Et là, s'amorce pour moi ce qui va être la trajectoire de Colette, ce qui va vraiment traverser toute sa vie d'artiste. C'est cette conjugaison très forte entre les nécessités matérielles et la nécessité redoublée quand on est une femme d'être encore plus dure et encore plus aux aguets que les autres artistes.
Pour terminer, Emmanuel Lambert, est-ce que vous pensez que Colette aurait de bons conseils à donner en matière amoureuse ? Est-ce qu'il faut suivre les conseils que Colette pourrait nous donner ?
Je ne saurais pas vous dire si Colette a été heureuse en amour. Ce que je sais, c'est qu'elle écrit de grands livres d'amour, mais qui sont des livres d'amour grands parce qu'ils sont aussi désabusés et lucides. Donc, je ne sais pas si j'ai envie de suivre les conseils de quelqu'un qui est désabusé et lucide en amour. Par contre, ça me fait beaucoup de bien de lire ces livres.
Missy semble sincèrement amoureuse de Colette. Quand elle achète en Bretagne la maison de Rosven, elle s'empresse de la lui donner. Un an plus tard, pourtant, Missy n'y sera plus la bienvenue. Et c'est avec un nouvel amour que Colette y retournera. Car entre-temps, elle a été embauchée au journal Le Matin, dont elle a rencontré l'un des rédacteurs en chef, Henri de Jouvenel. Et entre les deux, le courant passe, comme vous allez le voir, au cours du prochain épisode. L'amour selon Colette, une série de Salles des Archives proposée par Mathieu Garrigou-Lagrange et réalisée par Delphine Lemaire. Attachée de production, Lily Cornaer. Prise de son, Valérie Lavalard. Mixage, Jason Taous. Documentation INA, Arnaud Plançon.